Boulevard 101, émission d'Angers, ton émission d'actualité où on parle des sujets qui te concernent, que ce soit pour la région de Québec, en politique provinciale ou ailleurs dans le monde. On vient justement de parler de François Legault. Son règne de 8 ans à la tête de la province de Québec, vous en avez pensé quoi? 418-971-1021. À la météo présentement, c'est 4 degrés, alternance de soleil et nuages. Très belle journée. Demain, 5 degrés. Puis aux pluies verglaçantes durant la journée. Alors faites attention à vos déplacements en ce long congé de Pâques. Sinon, pour le long congé, 4 degrés alternance de soleil et nuages samedi, 9 degrés avec de la pluie pour dimanche et possibilité d'averses de neige à 2 degrés pour lundi 6 avril. Pascal, circulation?
Oui, faut le dire, beding-bedang un peu partout là en ce moment. On ralentit ou c'est glacé, quoi que ce soit, vous avez à signaler 88-971-1021. Moi, ce que je vois, c'est sur Félix Leclerc à la hauteur de la première avenue, direction est, voie de gauche bloquée. Il y a une panne, donc service d'urgence sur place. Puis même en direction ouest, la voie de gauche est partiellement entravée. Il y a des débris métalliques qui sont allés jusque dans l'autre direction, soit est, ouest. Là, c'est à faire attention, je rappelle, à la hauteur première avenue sur Félix Leclerc. Sinon, Laurentienne Sud, hauteur boulevard Le Bourgneuf, la voie de droite est bloquée. Il y a un accident. Le remorquage est en cours.
Vous vous dites, qu'est-ce que je fais ce week-end? Qu'est-ce qui va se passer avec ma programmation boulevard? Bien, c'est simple. C'est le long congé de Pâques et c'est 4 jours spéciaux de rock des années 2000. C'est une présentation d'identité Québec. Mais avant qu'on mette la musique dans le piton avec Colosse et Dan de Maine, ça sera l'actualité. Ne prends pas congé avec Pascal CV et Mathias Turcotte demain matin. De 7h à 10h. Par la suite, tu veux des Killers, tu veux du Linkin Park, tu veux du Muse, du Franz Ferdinand. Bien, les plus grands bands, les plus grosses tunes des années 2000, donc de 2000 à 2026 dans le rock, seront joués cette fin de semaine. Dan Caron fera également un garage spécial vendredi le 3 avril de 16h à 20h, ainsi que le lundi.
C'est-tu de la musique chrétienne, Jeff? Hein? C'est-tu de la musique chrétienne pour le congé de Pâques avec le
non, pas du tout. C'est du rock à belle planche, Hawaii dans le piton, lève le son, fais sauter les haut-parleurs du char ou d'Alexa chez vous. C'est une bonne que ça marche.
C'est du rock de Satan, finalement.
Exactement. Lundi 6 avril, 16h à 18h, c'est aussi un garage spécial de Dan Caron. On revient avec la programmation parlée à compter de mardi. Et vous mentionnez, vous rappelez l'annonce de ce matin, Catherine Bachand, excellente animatrice radio depuis 25 ans, qui est sur les ondes de Weekend Radio, fait son arrivée à Boulevard. Elle sera avec Max Larouche à compter de mardi de 10h à 11h dans le point de Max. Assez parlé de Boulevard, Pascal CV. Que se passe-t-il dans l'actualité avant qu'on discute du prix de l'essence? Un prix qui décourage énormément de gens à la pompe avec Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques du CAA Québec.
Ça vient d'être annoncé officiellement. Il y a un projet de 55,7 millions de dollars qui sera entièrement consacré au logement social. Ça sera où et ce sera financé par qui? Bien, par le programme fédéral Maison Canada. Tu sais, Maison Canada,
oui,
tu t'en souviens?
Bâtir Maison Canada.
Eh bien, c'est un des premiers au Québec qui vient d'être officialisé là, et annoncé. C'est plus de 15 ans après une démolition de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Rappelez-vous, c'est un projet immobilier de 151 logements. Et ça, ça va voir le jour sur l'îlot du même nom, là, à l'entrée du Vieux-Québec. C'est Radio-Canada qui vient de sortir la nouvelle, mais Mathias, entre autres, pourra nous en parler. Là. Mathias Turcotte, ouais, notre collègue qui est au point de presse, qui va faire un résumé aussi dans le retour cet après-midi. Mais bon, c'est des démarches qui avaient été lancées pour la création d'un centre de la petite enfance de 80 places aussi, là, qu'on a eu comme discussion. C'est d'énormes projets. Jean-François, on en avait énormément besoin à Québec, donc je te dirais que c'est une annonce majeure.
Vraiment. Annonce très positive pour la ville de Québec. Comme tu l'as dit, Mathias Turcotte va être dans le retour à 16h. Évidemment, parler de cette annonce et aussi parler du fait que le maire Marchand est deux pieds dans la ville de Québec. Enfin, il est là, ce point de presse-là. Et sûrement qu'il va faire là, une petite conférence qu'on appelle dans le jargon un scrum auprès des journalistes et qu'on va le questionner sur son voyage à Paris.
Oui, puis pour le projet, il faut que je dise que l'été, l'automne 2026 qui s'en vient, en fait, ce sera pour les relevés archéologiques et la décontamination du site. Vous savez, ça peut freiner ben, des projets, ces histoires-là.
OK, oui.
Et donc, le début de la construction, c'est pour printemps 2027. Aujourd'hui, c'était la dernière fois où on pouvait entendre François Legault du côté de l'Assemblée nationale. Bye-bye, Monsieur Legault. C'est un peu ça, la thématique de la journée. Hein. Et tu sais, collègues et son conseil se sont montrés très, très émue au Salon Rouge. Les cinq chefs des autres partis vont prendre la parole aussi, dans le fond, tout au long de la journée, mm-hmm. parce qu'il y aura des scrums assurés sur cette fin de règne pour M. Legault. Acteur S.A.Q. Click, Alain Généreux, celui qui s'était qualifié de picosseux et perspicace à la commission Galland sur le fiasco S.A.Q. Click, est maintenant directeur des projets stratégiques informatiques au cabinet de la ministre de la Santé et chapeaute, entre autres, le dossier santé numérique. Et là, ça crée énormément de malaise parce qu'il a été conseiller politique de l'ex-ministre des Transports, François Bonnardel, responsable du dossier de la S.A.Q. Click au sein de son cabinet. Et selon des sources du Journal de Québec, sa présence n'est pas nécessairement applaudie par tous.
Non, on va justement en parler avec Pascal Paradis aux alentours de 13h30. Mais en attendant, vous demandez, c'est qui ça, Alain Généreux? Parce qu'il y a tellement de monde qui sont passés à la commission Galland. Ben, voilà un petit rappel mémoire pour vous.
C'est sûr que ça vient de mon passé, évidemment. Mmh. Tu sais, j'étais entrepreneur puis tout ça, puis j'étais un peu un Thomas, moi. Tu sais, c'est sûr que j'aime ça poser des questions puis contre-vérifier de l'information. Tu sais, j'aime ça comprendre. Je veux pas juste recevoir de l'information.
Vous êtes un picosseux. J'en suis un, moi aussi, là. On s'entend bien, là, en tant que tel, là. OK? J'en suis un également. Nécessairement, pour monsieur, madame, tout le monde, OK, des payeurs de taxes, ce qui est important, c'est savoir comment ça va coûter. J'adore ce projet-là.
On me le dit pas précisément.
Posez-vous la question.
On pose la question sur... Le point, là, c'est qu'on pose la question sur le 458 millions, il est ferme.
Le picosseux, là, il avait, entre autres, dit à la commission Galland qu'il n'avait pas vraiment été mis clairement au courant des dépassements de coûts. Et ça me permet de faire un lien avec le fait que je vous rappelle que le budget pour le projet pilote du dossier santé numérique s'est déjà passé de 265 à 403 millions de dollars avec plusieurs mois de retard sur le plan initial. Bon, pour lui, c'est toujours de la marmotte.
Hey, c'est le picosseux que ça en... On est correct? Il est Thomas!
Président Donald Trump, président américain hier, qui s'est adressé aux citoyens, mais je dirais aux citoyens du monde, concernant le conflit en Iran, grossièrement, il a pas mal répété ce qu'il a toujours répété. On est bon, on est fiers. Mm-hmm. Par contre, il a ajouté qu'il devrait probablement tasser ses troupes, ses attaques dans le coin de l'Iran dans 2 à 3 semaines. Il semble tanné d'être là, ça coûte cher. Politiquement aussi, ça coûte cher. C'est un peu ce qu'on peut lire entre les lignes de son discours. Il s'est vanté d'avoir remporté dans les dernières semaines des victoires rapides, décisives, écrasantes. L'Iran a répliqué à ça parce que lui, il a dit « On s'en va dans 2-3 semaines, mais on va bombarder à peu près tout ce qui pourrait vous aider dans l'avenir, dans votre société moderne. On va vous ramener à l'âge de pierre, l'âge à laquelle vous êtes habitué de vivre, finalement. » Et ça, ça a énormément perturbé l'Iran. Là. On s'est fâché, puis on a dit non, ben nous aussi, on va avoir des répliques absolument terribles. Et pour le détroit d'Ormuz, ben il a décidé, Donald Trump, que lui, il allait se retirer, mais que tout le monde allait gérer au niveau du passage pétrolier, ce qui fait en sorte que ça fait exploser les prix de l'essence, et encore aujourd'hui, on y goûte.
Exactement, on va en parler avec Éric Ouellet dans quelques instants, Boulevard 102. De ce pas, on va rejoindre Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques au niveau de CAA Québec. Êtes-vous fâché quand vous arrivez à station-service, puis là, vous dites « Oh my God, ça a encore monté. Ah, oh, je m'en vais dans un congé de 4 jours. Faut que j'aille voir ma famille au Saguenay. Ça va me coûter un prix de fou. » Nicolas Ryan, merci d'être présent pour nous à l'émission d'En Jase à Boulevard 102.
Ça fait plaisir. Puis oui, en effet, il y a des gens qui sont fâchés. Moi, je suis à Montréal. On a vu 2 $
Dollars
à Montréal. Donc, on y goûte pas mal aussi.
Ouais, mais là, c'était bon parce que le journaliste à LCN a filmé le 2,09 $, puis tout de suite après, 5 minutes après, il était rendu à 1,99 $. Donc, tu sais, juste pour pas franchir la fameuse ligne du 2 $ le litre, là.
Ben exactement, c'est pas mal une barrière psychologique. Puis chez Coquette, là, il y a la nouvelle application là, depuis là, le site web, le régieessencequebec.ca, qui permet de suivre en direct. C'est comme un gros tour de char virtuel qu'on peut faire. On peut regarder tous les prix là, qui sont mis à jour continuellement. Et même moi, ce matin, j'ai regardé les stations autour de chez moi. Il y en avait une à 2 $. Puis quand j'ai mis à jour la page 5 minutes plus tard, elle avait aussi baissé c'est à 1,99 $. Donc on sent vraiment ne pas vouloir aller là. Cela dit, là, je regardais un peu la carte du Québec, dans le coin de Québec, la capitale nationale, on est plus autour de 1,87 $ en ce moment. Puis vous avez mentionné celui qui irait faire un petit tour au Saguenay pour aller pendant le congé de Pâques, mais on a 1,73 $ encore de ce côté-là. Fait que peut-être que ça va être un meilleur marché d'aller faire le plein du côté du Saguenay.
Exactement. Nicolas, dis-moi donc, à quoi s'attendre justement? Bon, là, tu viens de parler de différents prix, 1,73 $ au Saguenay, 1,87 $ capitale nationale, 1,99 $ région de Montréal. On s'attend à quoi? Est-ce que ça va monter durant le week-end? Est-ce que ça va se stabiliser? Est-ce que ça va descendre? C'est quoi les prévisions?
Ouais, ben en fait, nous, on se lance jamais dans le jeu de prévision. La réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Surtout avec un président imprévisible comme Donald Trump. Est-ce qu'il va lancer une nouvelle attaque ce soir? Est-ce qu'il va retirer ses troupes le lendemain? Il y a tellement de choses qui pourraient arriver pendant le week-end. La réalité, quand même, quand on regarde depuis un mois, malheureusement, les différents indicateurs pétroliers là, sont tous à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on est parti d'un prix là, qui était autour de 1,34, 1,35. Et là, on est en train de monter graduellement jusqu'aux 2 $. C'est la tendance actuelle qu'on voit. Il n'y a pas d'éclaircie encore à l'horizon. Est-ce que dans 2-3 semaines, ça pourrait recommencer à baisser? Ben, c'est ça, on ne le sait pas. Il y a tellement d'incertitudes, tellement de volatilité. On préfère ne pas s'avancer. Non, demain, pas moins, là, dans les derniers jours, on a quand même vu le prix grimper. Et la fameuse barrière psychologique de 2 $ là, est devant nous. Là. On est juste là, en ce moment.
On voit que ça va avoir des impacts sur bien des portefeuilles, des industries. Mm-hmm. C'est déjà le cas, puis c'est pas la première fois qu'on a joué dans ce scénario-là. Entre autres, les billets d'avion, ça va coûter plus cher. Les gens doivent probablement surveiller aussi tout ce qui est prix alimentaire, le transport, les livraisons à domicile. Puis pourtant, c'est dans l'ère moderne quelque chose qui est en constante évolution puis popularité, non?
Ben exactement, l'essence, c'est on est tous fâchés contre l'essence. L'essence est à 1,30, on est fâché. L'essence est à 1,90, on est fâché. Jusqu'à 2 $, on est encore plus fâché. Et oui, ça vient jouer sur les différentes industries. Là. C'est, à Québec, c'est pas différent. On a des camions sur les routes aussi. Là, nous, on paye du diesel. Il est autour de 2,50, 2,60 à certains endroits. Donc, évidemment, là, sur les factures, sur les coûts pour les entreprises, ça peut monter très rapidement. Et bien malheureusement, souvent, les industries vont en effet refiler la facture aux consommateurs. Donc oui, le jet fuel, le carburant d'avion aussi est à la hausse. Donc tous ces coûts-là ajoutés, ça se rajoute au coût de la vie là, qui nous a fait suer depuis plusieurs années. Ça se rajoute justement à ce qui coûte. C'est un coûtant directement dans le portefeuille des gens. C'est juste que l'essence, concrètement, on le voit. Hein, quand on fait le tour dans notre voiture, le prix de l'essence est affiché à tous les coins de rue. On le voit. C'est une commodité qui fait rager les gens parce qu'on est tellement exposé à ce prix-là. Puis on a l'impression d'être, je vous dirais, de pas avoir de pouvoir là-dessus. Puis c'est vrai que c'est au Québec qu'on choisit le prix de l'essence. Donc malheureusement, on est un peu victime d'une situation internationale qui fait en sorte que le prix a grimpé aussi rapidement. Puis on semble ne pas trouver de solution pour contrer la hausse de ces coûts-là.
Non, c'est un bon point que t'amènes. On l'a tellement dans le visage, le prix de l'essence, comparativement, par exemple, au prix d'un casseau de fraises, qu'on le remarque immédiatement dès qu'il y a une hausse. Nicolas, les plus cyniques comme moi vont dire que ces hausses-là arrivent toujours avant les longs congés, comme celui du long congé de Pâques. Vrai ou faux?
C'est un mythe qui est tenace. On l'entend beaucoup. C'est un mythe qu'on a quand même déconstruit avec les années. Donc, on a fait un bilan de l'essence 2025. L'an dernier, on a regardé justement toutes les situations où les prix de l'essence avaient monté avant le week-end. Puis je voudrais, il y a juste une fois dans toute l'année au complet où c'est arrivé, où on aurait pu poser des questions là, sur les marges bénéficiaires des stations-service. Donc, c'était une hausse qu'on considérait injustifiée. La réalité, comme je l'ai dit, c'est pas au Québec qu'on choisit le prix de l'essence. Donc, si les indicateurs pétroliers, justement, sont à la hausse, si par exemple le prix du Brent ou le prix du WTI est à la hausse un mercredi ou un jeudi, ben, il y a de fortes chances à ce moment-là qu'on voit le prix de l'essence grimper rendu au vendredi. Même chose avec les vacances de la construction aussi. Là, il y a 2 ans, là, ça avait été particulièrement. Je pense que le prix avait baissé de 10 sous juste avant les vacances de la construction.
Ouais.
Puis on recevait des appels quand même. Ça, comment ça le prix va être à la hausse? On l'a regardé tout le prix qui a baissé de 10 sous. Là. Est-ce qu'on peut le saluer pour une fois? Donc, c'est un mythe qui est tenace quand même. Les gens y pensent beaucoup. Mais là, la réalité, il y a une crise en Iran présentement. Là, c'est pas les stations-service qui sont décidées de se mettre tout ensemble aujourd'hui pour dire on va monter le prix. La réalité, c'est le prix qu'on paye globalement.
En terminant, peut-être justement aborder cette crise en Iran. Je sais pas si vous allez être à l'aise de répondre à ça, mais on a vu Donald Trump hier dire « Hey, arrangez-vous l'OTAN avec vos pétroliers puis votre passage au détroit d'Ormuz. Nous autres, on quitte dans 2-3 semaines puis on vous aide pas nécessairement là-dedans. Ce sera à chacun d'être indépendant dans la gestion de crise qu'il a veut pas amplifier et créer. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, être dans une genre de sphère qui va encore être difficile pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vu que ça ne sera pas nécessairement débouché?
Ben, c'est sûr, c'est inquiétant. Tout ce qui est crise internationale, on ne sent pas qu'on a un contrôle ici au Québec. La réalité, c'est qu'avant cette situation-là, il y a un mois, il n'y avait pas de problématique. Là. Nous, notre bilan de l'essence l'an dernier disait que le prix avait été en baisse en 2025 par rapport à 2024. En début d'année au Québec, là, on avait un prix qui flirtait parfois autour des 1,30, 1,35. Je pense que ça faisait du bien un peu au portefeuille de tout le monde. Et là, pouf, tout d'un coup, lance la situation en Iran. Même aux États-Unis, il y a énormément de pression. Là, je pense que c'est 4 $ le gallon à certains endroits. Les gens sont pas plus contents là-bas. Il y a personne qui est content en ce moment de cette situation-là. Donc, il y aura une pression pour régler le tout et faire en sorte, genre, de faire rebaisser le prix aux États-Unis. Il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent là-bas aussi. Je suis pas un spécialiste de la politique américaine, donc je peux pas m'avancer plus loin que ça, mais la réalité, je pense que si on regarde ça, il faut qu'il trouve une solution au problème que lui-même crée. Et s'il trouve cette solution-là, ben, probablement qu'on va tous en bénéficier et que les prix pourraient rebaisser. Mais malheureusement, souvent, les prix montent très rapidement. Et quand il y a le temps de baisser, c'est toujours un petit peu plus lent avant de voir la répercussion à la baisse. Mais on va suivre ça avec attention là, chez CA Québec.
Nicolas Ryan, directeur aux affaires publiques pour CA Québec, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis on va partir avec le fait que c'est pas vrai que c'est le long congé qui augmente le prix de l'essence.
Merci beaucoup.
Salut Nicolas, merci. Nicolas Ryan, directeur aux affaires publiques pour le CAA Québec.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Jeff, là-dedans, par contre, il faut savoir, il y en a qui essaient de débloquer les choses. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Hannan, est dans une discussion là-dessus sur sécuriser le détroit d'Ormuz à la fin des hostilités. Puis également, ben, c'est Pierre Poilievre qui jasait aujourd'hui de nous donner un genre de petit congé de taxe fédérale au prix de l'essence. Ça concerne tout le monde.
Exactement, ça concerne tout le monde et ça concerne surtout ce fameux détroit d'Ormuz tout près de l'Iran qui bloque 20% du transport du pétrole mondial. Et pour en parler avec nous, pour savoir si ça va être débloqué dans pas long, Pascal CV, on a Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci pour ta disponibilité aujourd'hui.
Oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Good. Éric, annonce à la Nation hier, Donald Trump a dit « ça va durer encore 2 semaines, après ça on plie bagage ». Vas-tu vraiment pouvoir plier bagage après seulement 2 semaines?
Ben, M. Trump et les forces armées américaines pourraient arrêter leurs opérations militaires après 2 semaines, je pense. Mais cependant, est-ce qu'ils auront atteint leurs objectifs? Ça, c'est moins clair, d'une part. D'autre part, c'est possible qu'Israël continue d'attaquer alors que les Américains, eux, ont arrêté. Il va y avoir certainement énormément de pression sur Israël pour arrêter, mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement fonctionner.
On se questionne sur les avancées de Donald Trump. Il dit qu'il va avoir réussi ses objectifs, mais ses objectifs, je veux dire, sont jamais nommés. Ils sont inventés pour beaucoup de points de presse, pour beaucoup d'apparences. Et il a dit hier qu'il allait être là pour tous les pays du Golfe, qu'il allait continuer de les aider et justement d'agir avec eux. Comment il va pouvoir faire ça s'il se retire? Comment il va pouvoir faire ça s'il veut faire baisser la chaleur?
Ben, en fait, les options américaines sont minces en ce moment. Le régime est toujours déterminé à résister. Cependant, on pourrait imaginer un scénario où les Américains et les Israéliens vont commencer à frapper les industries qui sont de la propriété des gardiens de la Révolution et qui, bon, là, au moins les dirigeants s'en mettent plein les poches avec tout ça. Et mettre de la pression sur eux pour arriver à une sorte de cessez-le-feu. Et sinon, on continue à détruire leur propriété, entre guillemets. Et là, ça pourrait mettre énormément de pression. Il y a aussi la possibilité d'une invasion de l'île de Kharg, où à peu près 90% du pétrole iranien transite et comme monnaie d'échange. Donc, on vous redonne Kharg, mais vous laissez le détroit ouvert. Donc, on verra, mais il y a quelques options possibles.
Qui dirige l'Iran présentement, Éric? C'est flou. Donald Trump dit qu'il parle avec des gens. Ces gens-là disent qu'ils ne parlent pas à Donald Trump. C'est qui dirige l'Iran?
Ben, en temps normal, c'est une question que tout le monde se pose. Donc, imaginez en temps de conflit. C'est en fait un réseau de gens qui, des gardiens de la Révolution, certains membres du clergé, quelques politiciens élus, et qui, c'est plus, il faut plus voir ça comme une espèce de nébuleuse où des gens discutent, socialisent et arrivent à une solution ou une décision jusqu'au prochain problème. Et donc, le processus se répète. Donc, c'est pas un processus décisionnel clair comme on a l'habitude de voir dans les pays occidentaux. C'est plus basé sur des discussions fluides qui évoluent au jour le jour.
Quand on parle de libérer le détroit d'Ormuz, et Pascal nous le disait justement tout juste avant l'entretien avec toi, Éric, qu'il y avait des pourparlers, et notamment le Canada faisait partie de ces pourparlers-là. Mais jusqu'à quel point ces pourparlers-là peuvent arriver à un débouché?
Moi, je pense que des discussions qui ont